Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble pour la partie culture de l'émission. Avec le romancier Frédéric Becbédé, il va nous parler de son livre dont le titre est imprononçable. C'est un émoji, on va dire, l'homme qui pleure de rire. Et je peux vous dire que ça rit jaune. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, Bob Dylan et un prodige de l'humour. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Avant le portrait, c'est le journal de la culture qui débute, Hélène, par l'affaire Mazeneff.
Oui Philippe, avec de nouvelles informations. Jour après jour, hier nous avons appris que la maison d'édition Gallimard a pris la décision de ne plus vendre le journal de l'écrivain qu'elle publiait depuis 30 ans suite au témoignage de Vanessa Springora. Un communiqué a été publié où l'on peut lire « La souffrance exprimée par Madame Vanessa Springora dans le consentement fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle. Les éditions de la Table Ronde, qui fait partie aussi du groupe Gallimard, ont cessé la commercialisation de ces livres. Ils en avaient publié 5 volumes du journal entre 1979 et 1992. Alors c'est la première fois que Gallimard prend une telle mesure. Sachez que les exemplaires de Gabriel Mazeneff, encore présents en librairie, dont le dernier, L'Amante de l'Arsenal, sorti en novembre, vont être rappelés. Gabriel Mazeneff, suite aux déclarations de Vanessa Springora, fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineurs. Il s'est exprimé dans une lettre adressée à BFM TV. Il écrit donc « J'ai le sentiment que quoi que je dise ou écrive aujourd'hui, cela se retournerait contre moi. Quant à mes galipettes coupables post-68ardes, oui, sans doute, nous étions-nous inconscients. Nous avons été nombreux à nous laisser enivrer par l'air de liberté et le parfum libertaire de cette époque insouciante qui durera une quinzaine d'années. » Donc, concernant la décision de Gallimard, l'auteur a réagi en écrivant « Je pense qu'il a raison. Cela calmera les excités qui auront ainsi le temps de lire mes essais. »
Dans un tout autre registre, des célébrités se mobilisent contre les terribles incendies qui sévissent en Australie depuis le mois de septembre.
Pour rappel, 80 000 km² ont déjà été dévastés, 24 personnes sont mortes et près de 500 millions d'animaux ont été touchés.
C'est le mot poli pour dire qu'ils sont morts.
Oui.
Touchés. Ils sont plus que touchés, les
Exactement.
Animaux, malheureusement, ils sont carrément morts.
Alors, parmi les personnalités, Philippe, Selena Gomez ou encore la chanteuse Pink et l'actrice Nicole Kidman, qui se sont toutes les deux engagées à donner chacune 500 000 dollars. Même chose pour Kylie Minogue, elle est australienne et sa famille, émue et dévastée par ce qui se passe en Australie, la chanteuse a expliqué son geste sur les réseaux sociaux. « L'année dernière, j'ai eu la chance incroyable de visiter certains des magnifiques endroits de mon pays d'origine pour la première fois. Rentrer à la maison pour découvrir une telle dévastation à travers le pays me brise le cœur. » De son côté, l'actrice et créatrice de la série Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, a décidé de mettre aux enchères la tenue qu'elle portait aux Golden Globes dimanche soir. La somme récoltée de cette vente sera envoyée en Australie, a affirmé l'actrice dans les coulisses de la cérémonie dont elle est partie avec deux récompenses. Et puis, autre personnalité à s'engager, l'acteur australien de Thor, Chris Hemsworth, il a lancé sur Instagram un appel aux dons pour aider les pompiers à lutter contre les flammes qui ravage le pays depuis le mois de septembre.
Et on continue ce journal avec un tout autre genre, Céline Dion.
La chanteuse actuellement en tournée avec son Courage Tour, alors elle a annulé plusieurs dates pour des raisons diplomatiques. Le Biblos International Festival a annoncé vendredi que Céline Dion ne se rendra pas à ce festival en juillet. La raison, le regain de tension dans la région en raison de la situation actuelle au Liban. Le Biblos International Festival et le management de Céline Dion se sont mis d'accord avec beaucoup de regrets pour annuler sa venue à Beyrouth le 31 juillet 2020. Cette annulation intervient aussi quelques jours après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani lors d'une frappe aérienne ordonnée par Donald Trump.
Et on sait qui va signer la musique du prochain James Bond.
Et il s'agit de Hans Zimmer. À qui l'on doit les musiques, vous l'entendez, des Pirates des Caraïbes, mais aussi du Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Interstellar. Alors il vient de rejoindre le projet Mourir peut attendre, le dernier James Bond, en dernière minute. Jusque-là, c'était un certain Dan Romer qui était attaché au projet, mais il a été mis à la porte pour des raisons, pour différentes raisons d'ailleurs. Alors Hans Zimmer a très peu de temps pour finaliser la bande originale, il a jusqu'à mi-février. Mais quand on dit Hans Zimmer plus James Bond, c'est plutôt classe quand même, on peut le dire. Le film sort le 8 avril prochain.
Et on termine ce journal Hélène avec un chiffre record.
Direction la Normandie et le Mont-Saint-Michel, la plus célèbre abbaye de France, a été visitée par pas loin de plus de 1,5 million de curieux sur l'année 2019. Un record de visite qui permet à un des plus beaux monuments de France d'enregistrer une progression de sa fréquentation de plus de 6%. Alors, et si le Mont-Saint-Michel a pu augmenter son taux de fréquentation, il le doit en partie à des spectacles nocturnes. Cela se déroule durant l'été avec les Chroniques du Mont de juillet à août dernier. Alors, les Chroniques du Mont proposaient notamment un spectacle nocturne qui habillait l'abbaye de différents jeux de lumière, d'effets sonores et de projections vidéo. Un événement qui a réuni pas loin de 500 000 spectateurs. Reste à voir, tiens, si l'édition de cette année fera encore mieux.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média ce matin, Philippe, on accueille Frédéric Becbédé.
Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Philippe Vondel.
Romancier mais pas seulement, auteur de romans traduits dans le monde entier. Je vais citer 99 francs ou L'amour dure 3 ans qui sont devenus des films. Vous êtes journaliste, chroniqueur au Figaro, président du Prix de Flore, figure du tout Paris littéraire comme on dit. Et là vous publiez un nouveau roman qu'on peut voir si vous nous regardez sur Europe1.fr. Roman qui n'a pas de titre, c'est plutôt un smiley, c'est l'homme qui pleure de rire, il a la tête penchée avec des larmes qui coulent. C'est chez Grasset. Comme tous vos romans. Pourquoi ce titre? Pourquoi un émoji? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est la fin d'une trilogie, la trilogie d'Octave Parangot sur les aliénations contemporaines. Et le premier tome s'intitulait 99 francs, c'était le prix de vente du livre. Donc il fallait trouver pour clore tout ça un symbole de notre temps. Et ça, c'est le signe le plus envoyé dans le monde, bien plus que le cœur, bien plus que le bisou. Les gens s'envoient cette tête qui pleure de rire en grimaçant. Je trouve que ça en dit long sur notre époque. Voilà.
Octave Parangot, votre héros, était publicitaire dans 99 francs. Il est passé par le business de la mode, c'est dans Au secours, pardon, le deuxième tome de la trilogie. Et là, pour le troisième, il trouve refuge comme chroniqueur dans une matinale radio sur France Inter, pour ne pas la nommer, que vous appelez France Publique.
C'est ce que je disais. C'est un roman.
Avec qui vous n'êtes pas tendre, mais j'imagine que vous auriez fait pareil, vous connaissant, si vous aviez été à la matinale d'RTL ou d'Europe 1, on en aurait pris plein les dents. Il y a des portraits au vitriol, comme celui de Nicolas Demorand, qui présente la matinale, que vous dénommez Nathan de Chardonne. Vous écrivez ceci sur lui. Il est intégralement inhumain. On ne confie pas un carrefour aussi important à quelqu'un d'empathique. J'admire sa froideur absolue. Il sait rester maître de ses émotions en toutes circonstances, comme à l'époque où il organisait des plans sociaux à Libération. Il ne craque jamais sous la pression. Et ce qui m'épate par-dessus tout, c'est qu'il est exactement le même hors antenne. Jamais un mot gentil, jamais une attention délicate. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que c'est un règlement de compte?
Mais c'est une fiction. Enfin, Philippe, vous savez que quand on écrit une satire,
fiction sans en être une. Nicolas Demorand a été à Libération dans lequel il y a eu des plans sociaux. Donc c'est une fiction, c'est assez réaliste quand même comme fiction.
Mais je prends des éléments de la réalité et j'en fais une sauce romanesque, satirique, outrancière, caricaturale. C'est ce qui est intéressant dans ce projet. C'est que c'est un projet complètement schizophrène. Il s'agit de faire une satire sur la satire, donc de retourner le rire contre le rire, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait souvent. J'essaie de le faire, peut-être c'est maladroit, mais ça ne m'intéresserait pas du tout d'écrire un article de journal ou un pamphlet sur Nicolas Demorand. Et je pense que c'est plus intéressant de le transformer en personnage de roman. Donc c'est un archétype, l'animateur sûr de lui, qui est obligé de rendre à l'antenne à l'heure, etc. Comme vous,
comme
Philippe.
Tout le monde, comme moi. Alors il y a les humoristes, il y en a le matin, il y en a à midi chez Nagui, l'après-midi, à savoir, je vais dire leur vrai nom, Charline Van Honecker, Alex Vizorek. Extrait page 53. Le véritable changement, on parlait de France Publique, la radio est arrivée.
J'explique que c'est une fiction et Vondel s'obstine à dire les vrais noms des gens.
Mais je donne les clés. C'est un
roman
clé.
C'est pas exactement. Mon projet.
En tout cas, ils sont belges. Vous auriez pu mettre dessus, vous avez mis deux belges. Le vrai changement est arrivé avec la nomination de deux belges à la tête de l'impertinence obligatoire quotidienne. Et là, on est dans le cœur de votre propos. Au début, leur chronique dans le 7-9 avait apporté un vent de fraîcheur charmant. Très vite, on leur avait confié un talk show qui défendaient les idées mélenchonistes. Après 4 ans de stacanovisme de l'insoumission, ils étaient devenus aussi inaudibles que le bébé de chaud de Stéphane Collaro. Leur autosatisfaction stridente, leur difficulté à fournir chaque jour des plaisanteries sur tout ce qui se passe dans le monde, les avaient métamorphosés en Jean Roucas. Vous ne pouvez pas reprocher à des gens qui ont du talent d'avoir du travail.
C'est terriblement difficile comme métier humoriste. Je l'ai fait pendant 3 ans à la matinale d'Inter. C'est impossible. Arriver à essayer d'être drôle quotidiennement, c'est vraiment une tâche extrêmement ardue, extrêmement angoissante. Mais je veux dire, il y a aussi un Belge sur Europe 1, Stéphane De Groot.
Bien sûr.
Donc l'invasion des comiques belges en France est un réel problème. Je pense qu'il faut relativiser, essayer de prendre tout ça un peu à la légère.
Oh, attendez.
J'ai vraiment fait un livre qui essaie de s'interroger sur la place prépondérante que prennent les humoristes pas seulement sur France Inter, mais partout.
Je vais parler du fond.
C'est notre société qui passe son temps à avoir besoin de pleurer et de rire pour éviter de pleurer de désespoir.
Dernière question sur la maison juste à côté de nous. Faites une prophétie. Vous écrivez, vous verrez, à la parution de ce livre, Octave, donc votre personnage, sera massacré pour crime de lèse-hilarité. Oui. Est-ce qu'ils vous ont massacré à l'antenne?
Je ne sais pas.
Est-ce qu'ils vous ont invité?
Non. Alors c'est vrai que oui, ça c'est quelque chose d'assez... vous savez l'expression silence radio,
ouais.
Là c'est en train d'arriver, c'est-à-dire que j'ai lu dans le Parisien...
Très bon papier de Benoît d'Aragon qui raconte qu'il y a des consignes de la direction pour ne pas citer votre livre.
Oui voilà, et les employés de la radio témoignent sous le sceau du secret, anonymement, enfin c'est assez incroyable. Mais
et quand vous les avez au
téléphone...
Encore une
fois, j'ai pas envie de critiquer France Inter sur
j'ai
Europe 1,
compris.
Je trouve que ça n'aurait aucun sens, c'est absurde. J'ai voulu parler d'un sujet plus vaste. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours se rouler par terre de rire alors que tout va mal? Et c'est mon cas avant tout, parce que moi j'ai commencé à organiser le Cacas Club quand j'avais 17 ans.
Ouais.
Et ça fait donc une trentaine d'années, non plus, que je passe mon temps à ne faire que ça. Quoi.
D'une question.
Que fuir, en fait, que fuir dans la blague.
Vous avez encore des amis dans cette radio. Ils vous parlent encore depuis la sortie du livre. Vous les avez eu au téléphone. Ils vous ont dit quoi sur le bouquin?
Ils m'ont demandé de ne pas les citer. Non, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très rigolo et heureusement, j'espère qu'on est dans un système démocratique où on peut critiquer son employeur, parler d'une entreprise où on a bossé sans que ça soit une tragédie. Je comprends pas s'il y a une vexation globale d'une radio pour un roman, mais quel bel hommage en fait. Moi, je pense que alors du coup, je suis assez flatté, mais jamais j'aurais imaginé une réaction pareille.
C'est Frédéric Becbédé qui est notre invité. Dans un instant, on va le découvrir autrement grâce au portrait inattendu d'Hélène Manarino. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Frédéric Becbédé, vous connaissez Hélène Manarino, vous tremblez.
Si
vous tremblez, c'est que vous la connaissez. Et si vous tremblez, c'est aussi que vous ne la connaissez pas. Donc vous êtes au bon stade. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler quelques petites indiscrétions concernant votre vie, ces choses qu'on ne sait pas forcément sur celui qui a 17 ans à privatiser pratiquement le bar basque à Saint-Jean-de-Luz pour réunir toute la jeunesse du Pays Basque, pour l'annonce du lieu où la fête était prévue le soir même, celui qui a organisé des trains Paris-Deauville avec 400 personnes pour aller faire la fête, celui qui a écrit comme premier roman Bems Jonde contre les Zbongs.
C'est quoi là? Il y a de l'info. Ça c'est pour la Pléiade.
Ou encore celui qui a organisé son pot de départ du Crédit Lyonnais à New York à l'Hippopotamus sans venir, en pensant que c'était plus chic de ne pas être présent à sa soirée d'adieu.
Comme Gatsby à sa soirée. Ouais.
Voilà. Alors Frédéric Becbédé, vous dites souvent à vos parents « Je n'ai pas de mémoire concernant mon enfance ». Alors je vais modestement tenter de vous la rafraîchir
déjà,
ce matin.
Ça a commencé. Ouais.
Vous avez grandi entre autres avec votre frère Charles, très calme, qui passait son temps à construire des villages en Lego. Vous, votre jeu, arrivait très très vite pour donner un coup de pied et tout détruire, jeu d'enfant finalement, mais une enfance marquée par la pêche au maquereau en Irlande. À l'âge de 9 ans, vous partiez sur une petite barque maquereau pêché, vous vous occupiez de les ouvrir.
Oh,
et oui,
quelle horreur. Un enfant pervers et malade.
Mais tout ce qu'il raconte est vrai.
Oui, bien sûr.
C'est ça qui nous intéresse.
Oui. Je ne sais pas où vous avez trouvé ces informations réelles. C'est effrayant. Oui.
Frédéric Becbédé, vous avez surtout eu envie très rapidement d'indépendance à l'âge de 4 ans sur la plage. Vous en avez eu marre un peu de la vie, des gens, et vous avez décidé de quitter la plage pour faire le point sur votre vie à 4 ans donc. Et vous êtes ensuite rentré chez vous en toute simplicité. J'étais partie faire un tour. Ce qui est drôle, c'est que votre petite fille de 2 ans a exactement fait la même chose.
Oui,
tel père, telle fille. Alors cette passion pour l'ailleurs, ça vient aussi des tours du monde que vous avez effectués en famille, notamment les États-Unis en 6 semaines, émerveillés par les dizaines de chaînes de dessins animés à la télévision qui vous changeaient de Zorro le dimanche soir, émerveillés par les centaines de choix de glaces. Et oui, parce que les glaces, vous aimez ça. En revanche, vous étiez assez compliqué sur le reste. Il a fallu 8 ans pour vous faire manger des tomates et des betteraves. Et quand on vous a fait manger du raisin, vous l'avez gardé des heures entières dans la bouche pour ne pas l'avaler.
Vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est dingue. Non, mais attendez.
Allons-y, racontez-nous votre enfance.
C'est-à-dire que j'ai essayé de me souvenir de mon enfance dans un roman français, mais là, vous avez plus d'éléments que dans tout le livre.
Alors, la compagnie des autres vous plaît aussi. Vous avez organisé des clubs d'écriture. Vous étiez, voilà, à l'âge de 9 ans, vous avez organisé des clubs d'écriture. Pardon, vous étiez au courant de toutes les bandes dessinées qui venaient de sortir. Vous avez aussi créé des pièces de théâtre dans le garage d'un de vos amis. Et puis surtout, alors, on n'était pas chez Régine ou au bain douche, mais vous étiez un magnifique organisateur de boom. Les filles se déguisaient en garçons, les garçons en filles, pour effrayer une vieille dame qui était toujours à sa fenêtre, Madame Pim.
Je m'en souviens pas du tout là. Vous êtes sûr que c'est moi ?
Oui, c'est vous. Ouais.
Pim.
Alors, Madame Pim, ce monde, votre monde que vous avez créé, il a été marqué par votre passion pour la science-fiction et vous avez d'ailleurs participé à l'âge de 11 ans à une émission de télévision. Temps X, hein, on s'en souvient des frères Bogdanov, avant d'organiser des projets X finalement. Alors dans cette émission, bon, c'est une petite blague, vous avez été capable de prononcer cette phrase, la science-fiction c'est la vision prospective du possible. Alors tout était possible avec vous, tout le temps, même organiser des spectacles avec frères, cousins, spectacles de clowns et faire payer les adultes, ce
oui,
qui rendait complètement fou votre grand-père. Mais de l'humour, vous en aviez beaucoup, Frédéric Becbédé. Par exemple, vous avez été capable de dire à l'oreille de votre cousin McDo Cheeseburger, alors qu'il était une personne du prêtre pour prendre l'hostie lors de sa communion. Vous avez dit ça. Très bonne vanne.
Bonne blague, ouais.
Alors, il avait raison. Alors, oui, votre grand-père avait raison de vous dire arrêtez évidemment de nous faire payer les spectacles parce que c'était un adulte et pour vous les adultes ça a toujours raison. C'est ce que vous avez dit à votre papa à l'âge de 12 ans en voyage en Martinique. Vous discutez donc avec votre père, vous êtes en désaccord et à un moment donné il vous dit tu as raison et votre réponse non ce n'est pas le jeu, ce sont les grands qui ont raison et ce sont les enfants qui doivent s'excuser.
Oh dis donc.
Et oui. Discussion sur la vérité. Alors, quelques années plus tard, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça, Frédéric Becbédé ? Et on va parler de Frédéric l'adulte, mais qui est resté un petit peu enfant parfois. C'est d'ailleurs pour ça que le temps qui passe vous angoisse. Alors, la désinvolture vous a quitté, mais il reste encore quelques folies, comme l'envie de donner comme deuxième prénom à votre fils Jésus, parce que le père de Jésus, c'est Dieu.
Oui.
Je vous laisse comprendre.
Non, c'est humble.
Voilà, non, mais c'est humble.
Votre fils s'appelle Jésus ?
Oui, bien sûr.
Waouh.
Wow. Oui,
oui. Facile à porter sur le passeport.
Oui, enfin, dans les pays latins, ça se fait énormément.
Ouais, il y a des footballeurs qui s'appellent Jesus. Ouais.
Alors,
Jesus. Ouais.
Une vie de fête et aujourd'hui une vie paisible et calme au Pays Basque, à Guétari, jouer dans les vagues, comme toujours, vos cours de gym aussi, même si c'est dur, mais oui, parce que vous picorez tout le temps. D'ailleurs, on vous surnomme le picoreur.
En fait, je suis entouré de balances.
Ouais.
Vous ne vous énervez jamais, la force tranquille, sauf quand le tri sélectif n'est pas fait. À 7h, vous êtes debout, vous achetez que du bio, vous vérifiez toutes les étiquettes. Alors non, vous n'êtes pas chiant, Frédéric Becbédé. Vous êtes plus raisonnable. Vous êtes un homme qui change. Votre prochain projet, créer votre vodka avec un ami et votre frère. Mais attention, une vodka du Frédéric d'aujourd'hui, c'est-à-dire bio et sans sucre. Alors Frédéric Becbédé, vous êtes passé par plusieurs états, plusieurs envies. Vous avez publié Une vie sans fin. Et finalement, avec toute cette folie, tous ces rêves et toutes ces passions, vous avez fait en sorte que votre vie le soit.
Ouais. Donc oui, c'est très non mais vraiment formidable travail de journaliste parce que là il y a tellement d'informations, c'est effrayant.
Ouais, même pour
c'est
vous.
Effrayant.
Mmh. Oui, le gars qui se souvient même plus ce qu'il a vécu.
Oui, non, bien sûr. Mais non,
et la vodka, c'est authentique.
Moi, j'ai un problème d'amnésie avec mon enfance, c'est vrai. Donc là, j'imagine que vous avez téléphoné à ma famille et ils ont raconté des souvenirs que je n'ai pas. Donc,
et la vodka, vous avez vraiment fait une marque de vodka.
Oui, c'est vrai. On travaille avec mon frère là-dessus.
Votre frère Charles Becbédé.
Une vodka qui soit bio,
elle
sans sucre et le verre de la bouteille 100% recyclé.
Et vous avez déjà le nom ?
Ça va s'appeler... non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je ne peux pas le dire parce que
moi,
c'est
j'ai
pas
une super
encore
idée.
Déposé.
Ça va s'appeler Amnésie. Au bout d'hiver, vous êtes comme ça.
La suite de Culture Média, c'est avec notre invité Frédéric Becbédé. Avec lui, on découvrira nos indispensables du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour qu'on va découvrir dans un instant avec Louise Bernard, Angèle Châtelier et Frédéric Becbédé qui est notre invité et qui publie L'homme qui pleure de rire aux éditions Grasset.
Mais sur le titre, il n'y a pas écrit ça. Sur
et
le
non.
titre, il y a un emoji qui rigole. Ce que vous dénoncez, c'est la dictature du LOL que vous avez vu naître avec Canal+. Vous avez travaillé, moi aussi, puis chez Yann Barthès dans Quotidien. Il y a quelque chose qui m'échappe, Frédéric Becbédé. Vous, qu'on a connu pendant des années riant de tout, de tous, y compris de vous-même, Pourquoi vous ne supportez plus que l'on rit de tout ?
Non, je m'interroge, je pose la question sur ma propre obsession pour la déconne permanente. Et Octave Parango me paraissait vraiment le personnage parfait pour ça, pour une sorte de dérive nocturne d'un type qui culpabilise parce qu'il a une chronique à rendre le lendemain matin, ce qui est la chose la plus angoissante au monde.
C'est vrai.
Et il ne trouve pas d'idée et il traverse Paris en pleine insurrection, les bagnoles qui flambent, le Fouquet's qui brûle, l'Arc de Triomphe saccagé. Et lui, il dit « Ah, mais de quoi je pourrais parler ?» Alors il essaye de parler de ça, mais c'est trop sérieux pour lui. Et en fait, voilà, c'est une société dans laquelle, finalement, à force de plaisanter tout le temps, eh bien, rien n'a changé depuis 40 ans.
Et ça va très loin, vous dites, les hommes politiques se bousculent pour passer chez Hanouna, sans comprendre que bientôt Hanouna prendra leur place. Ha ha ha, on se dit, on pense que vous racontez n'importe quoi. Puis, vous dressez une liste terrifiante d'humoristes qui ont effectivement pris le pouvoir, à commencer par Beppe Grillo.
Beppe Grillo, avec comme slogan pour être élu, « Vaffanculo », ce qui n'est pas super constructif.
Et les gens ont voté pour lui.
Les gens ont voté pour lui, il a été élu, et puis c'est pareil au Brésil, en Amérique, Trump, animateur de télé-réalité, ouais. Boris Johnson, qui est surnommé le clown Bojo. Mmh.
Jimmy Morales, vous citez, humoriste de télé, élu président du Guatemala en 2015.
Voilà, Vladimir Zelensky en Ukraine. Donc des comiques qui sont élus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas débattre avec un clown. On ne peut pas avoir un mec sérieux qui dise des choses importantes face à un mec qui dit « Vaffanculo ». Et donc on vote pour le mec marrant. C'est plus amusant, ça fait plus d'audience aussi.
Ou alors, on peut ne pas voter pour lui. Moi, je ne m'imagine pas, je ne me serais pas imaginé voter pour Coluche. Mais vous avez une thèse, vous dites, aux États-Unis, les humoristes, à force de taper sur Trump, l'ont fait élire.
Mais je crois que, disons que cette ironie permanente dans laquelle j'ai grandi et dont je suis complice, bien sûr, elle a pavé la route à des démagogues comico-populistes, parce qu'il faut bien les nommer, trouver un nom, qui sont des dégagistes, si vous voulez. Ils dégagent tout, les valeurs de la démocratie, tout ça. Ils arrivent à venir au pouvoir, quoi. Donc c'est une menace. C'est aussi peut-être l'occasion de lancer un débat voilà, sur cette question de l'humour obligatoire, permanent, toute la journée, sur Europe 1, comme ailleurs.
Bien sûr, sur Europe 1 également, il y a beaucoup d'humoristes sur Europe 1 également. Mmh. Vous le trouvez drôle, Bob Dylan ?
Non, pas trop.
Super. Parce que là, on va se préparer à aller au cinéma. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour.
Vous attendiez pas ce lancement, Angèle Châtelier.
Moi non plus. Très rire.
Car un biopic sur Bob Dylan, c'est-à-dire la vie de Bob Dylan, va bientôt sortir sur grand écran. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
Et quel lourd projet de retracer la vie de l'engagé du poète Bob Dylan. C'est le réalisateur James Mangold qui va s'en charger. On l'a vu derrière les films Logan ou plus récemment Le Mans 66. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. C'est l'acteur franco-américain Timothée Chalamet qui a été choisi pour jouer le rôle de Bob Dylan. Timothée Chalamet est actuellement à l'affiche du film Little Woman, mais il a été popularisé par le film Call Me By Your Name, sorti en 2017. Il jouait le rôle de l'amoureux Elio. Alors les deux ont des bouclettes aux cheveux, les joues un peu creusées, le regard nonchalant, sauf que l'un a 24 ans l'autre a aujourd'hui 78 ans.
Donc ça va être la vie de Bob Dylan jeune, j'imagine, si c'est lui, c'est
exactement.
Pas Bob Dylan maintenant.
Exactement.
Mais c'est pas la première fois qu'il y a un film sur la vie de Dylan.
Non, oui. Alors certains se rappellent peut-être I'm Not There, sorti en 2007, un film avec 6 acteurs et actrices qui incarnent le chanteur et qui s'inspirent de moments ou de personnes qui ont fait sa vie ou ses chansons. Il y a aussi eu des documentaires comme ceux de Martin Scorsese, No Direction Home, et un autre sorti récemment sur Netflix. Mais Bob Dylan lui-même devrait être le producteur exécutif de Going Electric. C'est ce film de James Mangold qui devrait sortir en 2021. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Donc Bob Dylan va produire un biopic sur sa vie. Oui. Il y a de nouveaux inédits Angèle de Bob Dylan qui sont sortis il n'y a pas si longtemps.
Oui, ils sont dans un album que l'on appelle un bootleg, disque pirate, des enregistrements de concerts ou en studio jamais sortis.
Mais un disque légal.
Exactement.
Parce qu'un bootleg c'est illégal normalement.
Oui, voilà. Ouais. Mais là c'est légal.
Parce qu'on est avec Beck BD, donc on est toujours à la limite.
C'est vrai. Alors selon l'auteur d'ailleurs Nigel Williamson qui a écrit un livre sur le chanteur, Bob Dylan serait l'un des artistes les plus piratés de l'histoire du rock.
Ben, normal.
Voilà. Alors ce dernier bootleg en date, le 14e du chanteur, c'est 3 CD d'enregistrement inédit de la période 67-69. Il y a par exemple ce titre qu'il chantait en concert. All of these awful things that I've heard, I don't want to believe in. All I want is your word. So darling, I'm counting on you. Tell me that it is. Et cerise sur le gâteau pour les amateurs de Dylan, on y retrouve aussi des sessions inédites avec un certain Johnny Cash.
Frédéric Beck BD fait un émoji lui-même, il fait pouce vers le haut, ça vous plaît ?
C'est merveilleux. Et alors, je voulais dire qu'il y a un de mes films préférés, qui est pas directement sur Bob Dylan, c'est Inside Llewyn Davis, les frères Cohen, où il parle d'un musicien qui n'était pas Bob Dylan à la même époque, et c'est vraiment merveilleux.
Avec un gros chat roux.
Il s'appelait comment le chat ?
Alors, le chat, je ne sais plus.
Mais... C'était un piège, je connaissais même pas ce film. Vous restez avec nous, Frédéric Beck BD, on va parler de quelque chose que vous détestez, on va parler du
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Frédéric Beck BD qui est notre invité ce matin dans Culture Média. On va revenir à son actualité dans un instant. Avant, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour, Philippe, avec Louise Bernard.
Ça va faire plaisir à Frédéric Beck BD. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous allez nous parler d'un spectacle d'humoriste. Et votre conseil du jour, c'est le seul en scène de Laurent Sciamma. Ça s'appelle Bonhomme.
Oui, alors cette chronique est pour Paul, cet ami qui, le 25 septembre 2019, à 19h45, m'a écrit « Va voir le spectacle de Laurent Sciamma. Hyper moderne, drôle et féministe. » Paul, j'ai mis du temps, mais tu avais raison. Le spectacle de Laurent Sciamma est effectivement hyper moderne, drôle et féministe. Non, mais il faut que je lui rende hommage quand même, parce que j'ai passé vraiment un super moment. Féministe, oui, c'est tout l'objet de son seul en scène. Il s'attaque brillamment aux clichés sur les genres. Lui qui préférait jouer au polypocket qu'aller au judo. Lui qui aurait aimé avoir un journal intime, vous savez, avec un petit cadenas sur le côté, mais avec Neymar en couverture. Ouais. Mais ça n'existe pas. C'est aussi une formidable déclaration d'amour, d'admiration aux femmes en général et aux femmes de sa vie aussi. Ses deux sœurs aînées, féministes, l'une d'elles n'est autre que Céline Sciamma, brillante réalisatrice. Ouais. Il y a aussi son ex-copine avec qui il a vécu 10 ans et qu'il a observé évoluer dans ce monde sexiste. Ça lui permet d'écrire avec tellement de pertinence et d'humour, évidemment, le quotidien des femmes. Puis MeToo est passé par là, alors même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, le changement est en cours et il le voit même chez sa nièce.
Mais ma nièce de 9 ans, elle est boostée. Elle a 9 ans, sérieux, c'est trop beau, je la vois. Elle a le seum. Elle a le seum. Je te jure, elle est genre, j'avoue, c'est abusé! Il se passe des trucs pas normaux! On va faire tomber le patriarcat! Bon, ok, elle dit pas encore le patriarcat. Mais ça va venir! Bien sûr, ça va venir, t'inquiète, c'est qu'une histoire de semaines. Mais ma soeur, elle la forme. Laisse tomber. C'est trop beau. Tout le temps, je la vois, c'est ma nièce, elle pose des petites questions. En mode, maman, est-ce que les filles, elles ont le droit de faire du foot? Je vois ma soeur, elle est direct en mode, ok, opportunité d'une leçon fondamentale.
Alors Laurent Sciamma, il fait partie de ces humoristes pour lesquels c'est assez ingrat de couper un extrait comme ça pour la radio. Il faut voir son spectacle en intégralité, apprécier les sketchs dans la longueur. D'ailleurs, voici la suite du passage sur sa nièce.
Elle a vraiment posé cette question-là, ma nièce. Ma soeur, elle était genre, mais bien sûr que tu peux faire... Attends. C'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire du fou, ou quoi. Tu peux faire ce que tu veux, tu comprends? Tu peux faire ce que tu veux. Laisse tomber, ma nièce, elle était genre, allez. Mais bien sûr que je peux faire ce que je veux, je peux faire du foot. Et du coup, tu sais quoi, je crois que je vais manger une deuxième danette. Non. Rien à voir, en fait. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est bien, t'as de la suite dans les idées. J'aime. Cette scène a vraiment eu lieu. Hein. J'étais dégoûté. Tu sais, en mode, vas-y, ça me vénère. C'est de la domination systémique, tu te rends pas compte. T'es pas dans la sororité, meuf. Elle a pas du tout dit tous ces mots.
Alors, c'est pas un humoriste à punchline, il mise plutôt sur le comique de situation. Il se dit humoriste de gag d'ailleurs. L'humour des BD et des dessins animés, hein, c'est vrai qu'il a un truc particulier au-delà du texte, un pouvoir comique très fort avec sa gestuelle que je peux pas vous montrer à la radio, ses mimes et puis la transformation de sa voix que là vous entendez.
Ouais.
Et puis il dégage une sympathie assez incroyable. Vous êtes comme face à un ami qui vous embarque dans ses réflexions. Et ses digressions, notamment sur Roger Cavaillès, le savon pour les parties intimes féminines. J'ai pas d'extrait, mais rien que pour ça, vous pouvez aller voir le spectacle.
Mais alors justement, est-ce qu'il faut être dans la sororité? Est-ce qu'il faut être féministe ou une femme pour apprécier le spectacle?
Alors, faut pas être réfractaire au féminisme, hein. Forcément, c'est sûr. Mais Laurent Sciamma, il parvient à rester grand public quand même, plus que jamais dans l'air du temps. Il joue à une version de son spectacle moins centrée sur le féminisme avant MeToo. Et puis le mouvement l'a convaincu qu'il fallait consacrer l'entièreté du spectacle à la cause.
C'est vrai qu'au moment où MeToo a eu lieu, moi je l'ai vraiment vécu comme un moment bouleversant. Le sentiment de vivre quelque chose d'historique et d'en être le témoin en voyant aussi les filles et femmes dans ma vie qu'ils vivaient comme ça, quelque chose même qu'elles pensaient presque pas vivre dans leur vie. Et du coup, ça m'a incité à mettre ce sujet au centre parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était ma place, que c'était de ça dont je pouvais parler et que peut-être d'autres garçons et d'autres garçons aussi qui font ce métier pouvaient peut-être pas en parler ou en tout cas en parler comme ça. Je l'ai vraiment vécu comme une responsabilité. De me dire, ok, je vais mettre ma comédie, mon histoire, mon récit aussi au service de ce projet politique. Parce que pour moi, le féminisme, c'est vraiment ça, c'est un projet politique.
Alors, dernière bonne raison d'y aller, le final, très puissant. C'est vraiment un humoriste qui se démarque par son style d'humour, son intelligence et un engagement sincère, c'est rare. Pour le voir, c'est au Café de la Gare à Paris tous les lundis jusqu'en mars pour l'instant, mais il va être prolongé, succès oblige, et passer le week-end. Il est en tournée à Lille le 7 et 8 février, Angers le 6 mars, Aix-en-Provence du 18 au 21 mars, Bordeaux fin avril, et il y a d'autres dates encore.
Merci beaucoup Louise, Frédéric Becbédé, vous qui avez une petite fille, ça vous parle?
Bien sûr.
Il y a de la sororité dans votre famille?
Et moi je trouve que c'est très important que les hommes disent qu'ils sont féministes. C'est pas, évidemment, c'est pas une cause réservée aux femmes et c'est très bien de faire ce genre de spectacle. Bon, moi, quand je critique l'humour, attention, hein, je critique le mélange humour et info, ce qu'on appelle infotainment. Ouais. C'est ça que je trouve terrifiant, c'est qu'on ne peut plus distinguer le sérieux de la blague. Mais quand on va dans un spectacle qui est engagé, ça peut être très très beau.
Et là, on vient de faire l'inverse, on vient de parler avec beaucoup beaucoup de sérieux d'un humoriste. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions pour vous.
Oui, la dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Frédéric Becbédé sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Dernière partie de Culture Média avec nous autour de cette table, Angèle Châtelier et Louise Bernard qui sont restés avec nous et notre invité Frédéric Becbédé qui publie L'homme qui pleure de rire aux éditions Grasset. Alors sur la couverture, c'est un emoji qui pleure de rire. Hein.
Tout le roman se passe dans une unité de temps, c'est une seule nuit, de lieu, sont les beaux quartiers de Paris avec un contexte, les gilets jaunes qui saccagent tout dans les beaux quartiers et vous dites que les humoristes sont totalement décontenancés par le mouvement des gilets jaunes.
Au départ, oui. L'acte 1 et l'acte 2, je me souviens très bien qu'on ne savait pas trop comment réagir, si c'était des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, on ne comprenait pas trop ce mouvement. Et puis il y avait une espèce de panique parce que ça avait lieu près de la maison de la radio, finalement de l'autre côté du Trocadéro. Ouais. Et ça faisait. C'était intéressant de voir des gens qui ont finalement fait profession de rébellion et qui ont critiqué le capitalisme pendant des décennies et qui tout d'un coup s'aperçoivent de leur immobilisme. Parce que finalement, voilà, quand on fait des blagues, ce qui a été mon cas aussi, on change pas le monde pendant ce temps-là.
En parlant de changer, vous avez changé, Frédéric Becbédé?
Oui, je crois, sur plein de points.
Dans le livre, double, Octave Parango, alors il drague toujours des putrus, il boit beaucoup, toutes sortes d'alcool, il prend de la coke, toutes sortes de drogues, sauf que vous écrivez vers la fin du roman « Je ne supporte plus la moindre malveillance. Je suis censé être l'individu le plus blasé de mon pays, mais je n'ai plus de carapace. Quelque chose en moi s'est craquelé. » Qu'est-ce qui s'est passé en vous?
Non, mais c'est de voir arriver un nouveau monde, de vieillir, d'avoir des enfants, de déménager, quitter Paris pour vivre à la campagne. Il y a quand même un énorme changement de vie chez moi qui fait que ça m'a amusé de revenir dans la peau d'Octave, qui est le cynique absolu, obsédé, drogué des années 90, et puis de voir ce qui change en lui. Il est totalement décalé, en fait. Il ne comprend plus rien au monde actuel. Et c'est, je pense, pour un roman, c'est ce qu'il y a de mieux d'avoir un héros qui est inadapté, parce qu'il regarde la réalité contemporaine avec un effarement, un étonnement, une mélancolie aussi, mais sans nostalgie, parce que je crois qu'il faut accepter les changements.
J'y pense, vous êtes chroniqueur régulier de l'émission de radio Le Masque et la Plume. Vous allez y retourner ou vous êtes blacklisté désormais par France Inter ?
Jérôme Garcin m'a dit que j'y retournerai en février, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la France.
Votre nom a beaucoup circulé ces derniers temps et même des vidéos. Le JDD vous présentait en 2014 comme l'homme le plus influent de Saint-Germain-des-Prés. Ça sous-entend le monde de l'édition. Et votre nom a circulé à cause de l'affaire Maznev, l'écrivain qui se vantait d'avoir des relations sexuelles avec des très jeunes filles, des très jeunes garçons, pour pas dire des enfants. On a vu la séquence de son passage chez Pivot en 90, mais plus récemment, c'est en 2013, il a obtenu le prix Renaudot Essai, alors que vous faisiez partie du jury avec notamment Franz-Olivier Gisbert, président du jury. Vous regrettez de lui avoir donné ce prix ?
Je ne sais pas si on lui donnerait aujourd'hui, parce que précisément, il y a un regard qui a totalement changé sur cette époque, et on en parlait à l'instant avec le mouvement MeToo. Et c'est vrai que, du coup, moi, le livre de Vanessa Springora, je l'ai pris vraiment comme un choc extrêmement troublant de se dire que, voilà, on avait la version de Gabriel Maznev sur cette histoire, et puis là, on a une version avec un traumatisme qui a duré des décennies. Et on se sent horriblement coupable, bien sûr.
Vous l'avez lu, le livre de Vanessa Springora ?
Oui, bien sûr.
Avant de l'avoir lu,
que je recommande.
C'était dans Le Monde fin décembre. Vous avez dit à la fois que Gabriel Maznev était indéfendable, mais qu'il restait votre ami. On peut être ami avec un pédophile ?
Je ne peux pas enfoncer quelqu'un qui est déjà à terre et qui fait l'objet d'une chasse à l'homme.
Et d'une enquête de la justice.
Je suis consterné, effaré, et je pense que c'est tout un milieu, toute une époque qui doit s'interroger sur comment on a pu laisser faire ça. Voilà, c'est surtout ça. Mais
c'est la question que tout le monde se pose.
Je suis extrêmement confus et malheureux de cette situation, et surtout de la souffrance de Vanessa.
La maison d'édition de Gabriel Maznev, Gallimard, vient d'annoncer qu'elle retirait tous ses livres de la vente. Est-ce que vous approuvez, ou est-ce que vous voyez là, comme beaucoup, une décision de Tartuffe, pour dire les choses en français courant, de faux cul, parce qu'il les avait lus, les livres de Maznev, avant.
Il ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui avec ce qui est révélé. Et parce qu'il faut savoir qu'on pensait aussi peut-être que c'était un mythomane, peut-être qu'il se vantait. Après tout, les gens qui écrivent transforment la réalité. Donc on n'était pas certain que cela fût exact. Mais bon, avec ce témoignage-là, maintenant, on comprend qu'il y a une douleur et que donc ça doit se respecter. Maintenant, si tous les livres où il y a ces questions-là doivent être retirés de la vente, ça n'est pas que les livres de Gabriel Maznev qu'il faut enlever des librairies.
Oui, mais par exemple, si on veut retirer, parce que l'exemple est souvent donné, les livres du Marquis de Sade, à l'époque, la majorité sexuelle n'était pas à 15 ans, les lois n'étaient pas les mêmes.
Oui,
ce qui est très étonnant quand on lit Maznev, c'est qu'à l'époque déjà, ce qu'il faisait était interdit. C'est ça qui frappe.
Non, mais je ne vais pas faire la liste, mais il y a beaucoup d'auteurs contemporains aussi qui parlent d'escapades, de tourisme sexuel avec des enfants, ou même dans les journaux d'André Gide. Ou Si le grain ne meurt d'André Gide, la deuxième partie est consacrée à ses voyages en Algérie où il voit des petits garçons. Enfin, donc la liste est tellement longue que j'avoue que là, j'ai peur qu'on entre dans un système de censure. Et ça, on ne peut pas le souhaiter. Même si peut-être que c'est nécessaire.
Merci beaucoup Frédéric Becbédé. C'est pas facile d'enchaîner pour dire que votre roman est, selon l'expression consacrée, jubilatoire.
Mais
ça
parle, vous savez, je peux ajouter quelque chose.
Allez-y, parce qu'il reste 30 secondes.
Je pense que il y a un lien, c'est qu'à force de ne rien prendre au sérieux, nous n'avons pas pris au sérieux Gabriel Maznev.
Merci beaucoup Frédéric Becbédé. Ce livre chez Grasset, le titre, c'est le seul livre qui a un emoji sur sa couverture, avec la fameuse couverture jaune beurre, moins frais que celui de Gallimard.
C'était Philippe Vandel. Dans un instant, Anne Roumanoff débarque avec toute sa bande et leurs invités.
Oui, j'ai oublié de vous dire
demain,
nous recevrons Julie Bonnat pour la partie média et Thierry Lhermitte, le comédien, pour la partie culture. Céline,
demain,
pardon,
Philippe
vous interrompez
non,
à demain.
Non, chose en précis, c'est bien normal. Anne Roumanoff, pour la suite, elle reçoit aujourd'hui Isabelle Carré, Fred Testo et Amel Chabi sur Europe 1.